première table ronde.
Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur cette première table ronde de la conférence éthique. La responsabilité individuelle est-elle étouffée par l'État ? On a un panel d'invités exceptionnels autour de cette table qui n'auront pas 4 heures pour en disserter, mais environ 45 minutes. On accueille Aurore Longuet, bonjour.
Bonjour Fabrice Costet.
Vous êtes cofondatrice chez Concordia Bilingual School.
Absolument.
Voilà, on fait plutôt de l'anglais chez Concordia.
Alors on fait de l'anglais, mais pas que.
D'accord. Et on va se poser la question avec vous, éducation et retour de l'uniforme à l'école. On vient d'en parler avec Sophie de Menton et le futur ex-ministre Alexandre Portier. Effectivement, est-ce que c'est une solution ? Est-ce que ça symboliserait le retour de l'autorité ? On verra ça dans un instant avec vous. À vos côtés, Christian de Boissieu. Bonjour Christian.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'économie à l'université.
Émérite, ça veut dire pas tout jeune. Hein.
Émérite, ça veut dire...
Pas tout jeune.
Voilà.
Ok. Bon, mais c'est pas grave.
Énormément de mérite.
Plein de sagesse, en tout cas, d'économie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également vice-président du Cercle des économistes. Et on va s'intéresser à la finance climatique. Est-ce que c'est la nouvelle éthique de la finance ?
Je ne sais pas si ça rentre dans le thème général de votre matinée.
Mais c'est pas grave, on trouvera un lien, vous en faites pas. Et enfin, Olivier Babot. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes président et cofondateur de l'Institut Sapiens. Et on se pose cette question, ce thème beaucoup plus large, vivons-nous une crise de l'effort ? On va démarrer tout de suite avec vous, Aurore. On l'évoquait hein, justement, Concordia Bilingual School, j'allais dire Business School, mais non, peut-être que vos élèves feront des Business School. Mais pour l'instant, Bilingual, à qui ça s'adresse ? Parlez-nous de votre entreprise qui a été créée il y a quelques années et qui accueille déjà, en très peu de temps, hein, vous êtes passé d'une petite classe de 30 élèves, plus de 400 aujourd'hui.
Exactement. Alors, Concordia Bilingual School, c'est une école franco-anglaise qui accueille les enfants en maternelle, primaire, collège et bientôt lycée, totalement franco-anglaise, bilingue et biculturelle, et en fait qui prend le meilleur du système français et du meilleur anglais. On prend du système français qui est basé sur la connaissance, donc la connaissance, l'exigence et la rigueur, et du système anglais, les soft skills, c'est-à-dire l'apprentissage du travail en groupe, la prise de parole en public, le critical thinking, on fait réfléchir les enfants, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de projets.
D'accord.
En fait, ça s'adresse à des enfants français ou internationaux, et notre exigence est bien plus élevée que le système de l'éducation nationale français. On emmène les enfants plus loin académiquement, avec des méthodes pédagogiques renouvelées, beaucoup plus anglo-saxonnes.
Le meilleur des deux mondes.
Le meilleur des deux mondes.
En quelque sorte.
Exactement.
Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire à côté c'est mieux. On envie ce système anglo-saxon qui serait plus participatif, qui favoriserait justement la communication, l'oral davantage, plutôt qu'une... vous êtes à côté d'un professeur, peut-être un savoir qui descend de façon un petit peu verticale, de temps en temps un peu trop verticale.
Alors, indiscutablement, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Il y a plein de choses formidables dans le système français. Et il y a plein de choses formidables dans le système anglais. Aujourd'hui, en revanche, l'éducation française doit faire sa mue, ce qu'elle n'a pas encore fait. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui à Concordia School Paris. Nos méthodes pédagogiques sont beaucoup plus actives. L'enfant est beaucoup plus engagé dans ses enseignements, notamment par l'éducation en mode projet. Après, le professeur est un coach. L'erreur est une opportunité pour apprendre. Tout l'état d'esprit de l'école est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus positif que dans l'école classique, traditionnelle, française.
Oui. Justement, à propos de l'erreur, de l'échec, ou plutôt de s'évaluer, vous dites chez nous, on a remis les notes au goût du jour. On n'est pas dans un système de couleurs, jaune clair, jaune foncé, où on ne sait pas trop. Pourquoi c'est important d'avoir des notes et d'être évalué de cette façon ?
Alors, la note, chez nous, n'est pas un outil pour de ranking pour les enfants. Ouais. C'est un outil de pilotage pour les enfants et pour les parents. Parce qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et il faut savoir s'évaluer. Mais la note est associée à un référentiel précis de critères pour savoir comment on est évalué. Par exemple, je prends un exemple très concret, ce sera plus simple, pour une dissertation. Aujourd'hui, souvent, les notes, 8 sur 20. Mais pourquoi 8 sur 20 ? En fait, nous, en amont, on établit un référentiel précis de qu'est-ce qui va être noté. Alors, pour une dissertation, ça peut être les verbes, on met tous les verbes au passé, la richesse du vocabulaire, un certain nombre de critères qu'on évalue, qui sont liés à la note, Et ensuite, l'enfant peut progresser parce qu'il voit les critères sur lesquels il a péché et ceux sur lesquels il est fort.
Et ensuite, donc, ce n'est pas une note sanction.
Ce n'est pas du tout une note sanction, c'est une note pilotage. Et on associe à la notation une deuxième partie qui est peut-être la plus intéressante, c'est des objectifs personnalisés par élève. Parce qu'en fait, dans le système français, aujourd'hui, historiquement, c'est one size fits all, c'est-à-dire c'est un modèle ultra standardisé, le même pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qui fonctionne dans l'éducation, c'est la différenciation pédagogique. Et en fait, la note associée avec des objectifs personnalisés par élève permet cette différenciation pédagogique.
Tout à fait. Résurrection, tiens, je vois que Christian de Boissier vous est...
D'abord, bravo. Deux points. Ce que vous dites me paraît important en disant que le système n'est pas punitif. Le verre est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc, on ne cherche pas, en quelque sorte, à sélectionner par l'erreur ou par l'échec. C'est la première remarque. Et là c'est à la fois franco-britannique, mais un peu américain aussi. Et deuxièmement, justement, par rapport aux États-Unis, je ne connais pas par cœur le système britannique, mais est-ce que vous mettez dans les soft skills, vous mettez, par exemple, tout ce qui est sport? Est-ce qu'il y a plus de sport? Il y a des après-midi pour le sport, comme ça peut exister aux États-Unis? Je ne sais pas si ça existe du côté britannique. Une importance différente accordée aux exercices physiques.
Alors, on croit dur comme fer à l'exercice du sport. Il y a deux après-midi par semaine qui sont dédiés totalement au sport. On est allié avec des stades du quartier qui nous permettent vraiment de faire du sport en équipe et du sport individuel. On allie les deux. Après, on ne peut pas tout faire. On est une école bilingue super exigeante académiquement. Il faut tout faire rentrer dans la calendrier. Mais on valorise les valeurs du sport considérablement. Mais on est beaucoup moins fort en France, de manière générale, que dans le système britannique. Parce que dans le système britannique, et je connais moins le système américain, mais pourquoi ils sont aussi forts et pourquoi ils placent le sport au centre de leur pédagogie? Parce que c'est fondamental. Déjà, l'exercice physique permet ensuite aux enfants de se concentrer à un meilleur apprentissage. Mais en fait, toutes les écoles sont organisées ensemble. C'est-à-dire que n'importe quelle école primaire, collège ou lycée joue des matchs contre une autre école. Donc en fait, tous les mercredis, tous les samedis, ils ont des matchs contre l'école voisine. Donc c'est comme si Jean-Son de Sailly jouait contre Jean-Baptiste VII tous les samedis et il y avait une sorte d'émulation là-dessus.
Ce qui est pas caché. Il y a une valorisation aussi du sportif.
Je m'adresse aussi à Olivier Babot autour de cette table. C'est-à-dire qu'en France, quand on fait faillite, ça laisse des traces. Vous êtes sur un fichier Banque de France pendant des années, vous perdez vos amis, éventuellement, j'allais dire, votre femme, etc. Alors qu'aux États-Unis, l'échec, c'est une voie vers le succès qui arrivera un jour ou l'autre. Et donc, c'est un peu, vous êtes un peu plus dans, quand je dis, au fond, votre système n'est pas punitif, on donne sa chance à tout le monde et on bloque pas les gens dans 6 sur 20 de vitam aeternam. Le type, le jeune élève, il a raté la compo au début de l'année, donc il va être marqué, etc. C'est pas ça votre optique.
Bien sûr que non. Et évidemment, je vais pas non plus monopoliser la parole, mais en fait, on a évidemment des assistant teachers qui permettent de faire des sous-groupes de niveau pour permettre aux enfants de progresser à leur rythme. Et c'est ça qui est fondamental. Parce que l'important, c'est de progresser. Typiquement, un enfant qui est très mauvais en orthographe, ce qui n'est pas du tout un signe d'intelligence, l'orthographe, qui est très mauvais en orthographe. Si l'on lui fait une dictée hyper difficile, si je prends une analogie avec le ski, piste noire, il n'a aucune chance. En revanche, si on lui fait une dictée piste verte, piste bleue, piste rouge, puis piste noire, en 6 mois, la probabilité qu'il ait atteint un niveau excellent est très forte.
Oui. Alors, pour avancer, juste, Aurore, et après on va passer à Olivier, l'uniforme, c'est important pour vous, c'est même un élément inhérent à la construction de l'école. Pourquoi c'est important d'avoir cet uniforme?
Alors, l'uniforme, pour nous, c'est un élément de cohésion fort. Ça permet de structurer et donner un cadre précis aux élèves. Ça crée l'école et un cadre distinct de celui de la maison. Il y a sa tenue pour aller apprendre et pour aller réfléchir, c'est l'uniforme. C'est aussi un outil qui nous permet de créer un sentiment d'appartenance. Concordia School Paris, c'est une école récente, ça a été créé à 6 ans. Et en fait, aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, appartenir à une communauté, on pense que c'est fondamental. Simone Veil, la philosophe, le disait dans son livre « L'enracinement ». L'enracinement est essentiel pour l'épanouissement de l'être humain. Et aujourd'hui, pourquoi il y a autant de problèmes de santé mentale? C'est parce qu'en fait, les jeunes ne se sentent appartenir à rien de précis. Et en fait, il faut créer des communautés. La communauté peut être familiale, à l'école, sportive, religieuse, quelle qu'elle soit.
Un ancrage.
En tout cas, nous, on crée un ancrage à l'école, de cette manière. Et enfin, dernière chose, on pense que paradoxalement, l'uniforme est un outil d'émancipation. Parce qu'en fait, comme on gomme toutes les différences superficielles, ça permet vraiment aux élèves, aux enfants, de révéler leur personnalité et de développer d'autres qualités que celles d'avoir un joli t-shirt, etc.
Le ministre disait pas l'inverse hein, tout à l'heure. Effectivement, il était plutôt pour cet uniforme, ne serait-ce que pour qu'on ne soit pas justement des catalogues, des marques sur pied. Olivier Babot, une petite remarque justement par rapport à ça et cette crise de l'effort qu'on connaîtrait actuellement, votre théorie.
Je sais que parler d'une crise de l'effort, c'est tout de suite risquer d'avoir une réponse du type « ok boomer », alors que je ne suis certainement pas un boomer, mais plutôt un enfant de la dette en réalité, parce que je suis né en 76, donc je suis né avec le déficit en fait, hein, et avec son aggravation, j'espère moi m'améliorer, alors que le déficit lui est plutôt en aggravation. C'est difficile de parler de crise de l'effort, parce que tout de suite ça fait, regardez les vieilles générations qui regardent les jeunes, et puis c'est vrai, ça fait 2000 ans qu'on dit que les jeunes ne respectent plus les anciens, etc. Mais je crois vraiment, et dans l'ouvrage qui paraît en janvier, j'essaye vraiment d'argumenter le fait qu'il y a eu une rupture dans le rapport qu'on a depuis une génération à l'effort, jusque-là depuis des centaines de milliers d'années en réalité, pour les trois choses essentielles, c'est-à-dire survivre, appartenir à la société, faire société, être accepté par elle, et la troisième chose, c'est-à-dire se réaliser, pour ces trois choses, on exigeait des efforts énormes, une adaptation du travail, du temps passé, c'est-à-dire quelque chose qui nous l'effort, c'est quoi? C'est ce qui nous éloigne du plaisir immédiat, en fait. C'est ce qui nous éloigne de ce qu'on a envie de faire tout de suite. L'effort, c'est ce que, par définition, on n'a plutôt pas envie de faire, mais qu'on s'oblige à faire parce que ça nous permet un gain à plus long terme. Et bien, je crois vraiment que depuis une génération, ces trois choses, c'est-à-dire 25 ans, hein, se sont effondrées et que nous vivons, oui, en Occident, hein, car évidemment, ça n'est pas dans le monde entier. Nous vivons dans les vieilles démocraties, dans le vieil Occident, une crise de l'effort qui est en train de nous tuer.
Ouais, sur les trois piliers, vous dites, effectivement.
Bah, survivre. Regardez, aujourd'hui, autrefois, tu ne travaillais pas, tu ne mangeais pas. Aujourd'hui, c'est formidable, c'est le mérite de notre système. Tu peux parfaitement ne pas vraiment travailler et continuer à survivre. Voilà. Et survivre et vivre et avoir finalement un minimum.
Pas très
et
bien, mais fois, on mourra pas de faim.
Oui, non, mais tant mieux. Mais autrefois, c'était impitoyable. Et pourquoi vous aviez beaucoup d'enfants? Parce que c'était la seule façon de survivre quand vous étiez plus âgé. Parce qu'il n'y avait pas de système de retraite. Aujourd'hui, il y a un système important de filet qui fait que vous n'avez plus. On est habitué à la prospérité. Ça, c'est la première chose. Pour appartenir, autrefois, c'était très simple. Il fallait occuper la place que la société voulait que tu occupes. Tu avais, en général, d'ailleurs, tu prenais l'épouse ou l'époux que te donner tes parents, tu faisais le métier qu'avaient déterminé les parents et t'habitais en gros là où t'étais né. Aujourd'hui, c'est le contraire, tu attends de la société qu'elle s'adapte à tes lubies. Alors c'est évidemment les pronoms ou le genre que tu veux, mais c'est plus généralement, c'est à la société de faire l'effort. C'est à elle, et c'est l'idée, l'inclusion, c'est toute la société va devoir changer en fonction de ce que tu as envie qu'elle te fasse comme place. C'est une inversion radicale. Et puis la dernière chose, c'est se réaliser. Jusque-là, c'était quoi les modèles? C'était le saint, c'était le héros, c'était le grand homme, c'était l'homme exceptionnel. Aujourd'hui, le modèle, c'est la victime d'abord. Et puis, ce sont des modèles de réalisation cheap de la société de consommation. Se réaliser, c'est la soirée Netflix, c'est se faire plaisir, c'est donc le plaisir immédiat par opposition justement au plaisir différé, et c'est de cela dont nous sommes en train de mourir, puisque si nous avons aujourd'hui des problèmes financiers et budgétaires, c'est en grande partie parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de travail, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'emploi qui est trop faible, on ne travaille pas tout au long de la vie assez, on n'a pas assez de gens dans une génération qui travaillent pour supporter le système de protection sociale de tous ceux qui ne travaillent pas.
Oh bah c'est très gai tout ça, merci pour ce constat.
J'ai pas dit que c'était gai malheureusement, mais après avec faire le constat, c'est la première chose pour réagir.
Commentaire de notre professeur.
Je suis d'accord avec Olivier. Il y a un problème générationnel qu'Olivier évoquait au démarrage. Est-ce que c'est moins d'efforts ou est-ce que c'est un effort qui porte sur d'autres choses? Je veux dire par là qu'il y a un changement des valeurs. Alors, on va le redire, ça a été dit partout. Ce qu'on appelle la valeur travail, et pas au sens de Marx, mais au sens général du terme, la valeur travail, on a pris un coup. Moi, je suis père et grand-père, alors j'essaye de comparer un peu les différentes générations. C'est vrai que quand je dis à mon dernier fils, qui a 20 ans, donc qui est encore étudiant, quand je lui dis « tu travailles pas assez », je passe pour un vieux schnock. Pour ne pas être plus mal élevé
aussi,
que ça.
Bon.
Et donc ça me fait réfléchir au fait qu'il y a certainement de la part des plus jeunes générations et des jeunes générations une demande pour ce qu'ils perçoivent comme étant la qualité de vie. Là-dedans, ça ne veut pas dire qu'ils reculent devant des sacrifices, devant des efforts. Simplement, ils veulent utiliser leur énergie à d'autres choses peut-être que nous, les générations.
Comme quoi
bah, j'ai rien contre ça. Je parlais du sport. Je faisais tout à l'heure la promotion du sport en parlant à Mme Longuet. Mais je veux dire, voilà, Olivier le disait, les sorties, les réseaux sociaux, autre chose, quoi.
Mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'on prend systématiquement le contre-pied de la génération précédente ? Peut-être des parents, effectivement, qu'on a vu
travailler trop,
qui souffrent de burn-out, peut-être, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient, il n'y a plus vraiment de sens, et eux, ils se disent, bah, voilà, s'il n'y a plus de sens, finalement, et que bah, pour la survie, en plus, on rentre, ceux qui ont des difficultés n'ont aucun souci, alors que c'était la honte à l'époque de rentrer chez son père ou sa mère. Aujourd'hui, c'est assez flexible, c'est assez fluide. C'est-à-dire, on va commencer les études, on va commencer un job, ça ne marche pas, on revient, on repart. On a tous des exemples comme ça. Alors qu'avant, bah voilà, on coupait le cordon et puis après, on se débrouillait un petit peu. Aurore Longuet, je crois que vous n'avez pas encore des étudiants suffisamment en âge. Je crois que ça s'arrête aujourd'hui au collège, mais vous pensez au lycée. Hein.
On va lancer le lycée, mais c'est vrai qu'on voit bien que les enfants ont beaucoup plus de mal à faire des efforts aujourd'hui. C'est la génération de l'instantanéité. Tout est accessible immédiatement. Donc, c'est vrai que le plaisir différé est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre.
Et en plus, on a moins de mémoire. Poisson rouge, paraît-il. On a moins de capacité d'attention. C'est vrai ou pas ?
On se souvient de
la capacité d'attention est bien plus réduite. Notamment, c'est lié aux écrans. Il y a des études qui le prouvent. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur la question. En fait, sur l'effort. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte nos méthodes. Parce qu'en fait, si vous voulez, les méthodes de mémorisation très classique qu'on utilisait à notre époque quand on était jeune, ne fonctionne plus. Donc en fait, il faut trouver des biais, et c'est ce que les anglo-saxons font vraiment très bien. Ils ont des méthodes beaucoup plus hands-on, ce que je disais, beaucoup plus projet. Et ensuite, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les enfants, et c'est pas un jugement de valeur du tout, sont élevés de manière dans du coton. En fait, ces enfants font beaucoup moins d'efforts. Toute la société, leurs parents font des efforts pour eux. Donc c'est vrai qu'ils se mobilisent moins. Et il y a un autre facteur, c'est qu'ils sont extrêmement peureux. En fait, ils ont peur. C'est the anxious generation. En fait, aujourd'hui, on voit le climat politique, la situation, le climat, etc., les terrorise. Et en fait, ça les paralyse un tout petit peu dans l'action. Donc en fait, nous, en tout cas, à ma petite échelle, dans notre école, on essaie de redonner le moral aux enfants. En fait, on essaie d'avoir une éducation extrêmement positive en leur disant tout est possible et vous allez le faire. La confiance en soi.
Confiance en soi.
Et c'est clé. En fait, et c'est aussi la clé pour leur permettre de faire des efforts.
The Anxious Generation, ça va sortir, c'est Jonathan Haidt qui a publié cet ouvrage, donc je vais vérifier suite à notre préparation de cette interview, et effectivement ça sort en français à partir de janvier. Alors, en même temps peut-être que votre ouvrage.
Mais
on a le titre déjà, enfin, Olivier, vous avez pas dit.
Oui, ça s'appelle L'ère de la flemme.
L'ère de la flemme,
oui, tout simplement.
L'ère de la flemme, comment on fait justement, parce que ces élèves, c'est vrai qu'aujourd'hui ils peuvent être encore plus flemmards avec des outils incroyables qu'on a aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle. Vous demandez à ChatGPT, ben voilà, ils n'ont pas le droit de l'utiliser, mais bon, ils le font tous. Pour faire les devoirs, c'est quand même extrêmement pratique. Nous, il fallait la bibliothèque pour faire des devoirs. Maintenant, vous avez la réponse instantanément à n'importe quel sujet.
Exactement. Les nouvelles technologies, c'est le clou du cercueil, the nail in the coffin, n'est-ce pas, comme ils disent. On n'a pas la même expression en français, mais c'est la même idée. Hein. C'est le clou du cercueil parce que ça arrive justement au moment où on a déjà perdu pour d'autres raisons et depuis longtemps. C'est un processus qui a commencé longtemps et qui aboutit aujourd'hui. La technologie, tout d'un coup, nous donne les moyens de vivre une vie où on fait extrêmement peu d'efforts physiquement et intellectuellement. Et ça arrive à toute vitesse. Les robots humanoïdes que vous aurez chez vous qui vont ranger, faire la cuisine à votre place. Et puis, dès aujourd'hui, des IA, des intelligences artificielles qui vont réfléchir, qui vont apprendre à votre place. Et moi, je le vois déjà avec mes enfants qui sont plus jeunes, autour de 11, 12, 13 ans, là. Et en fait, aujourd'hui, déjà, le réflexe, c'est « Attends, on va aller sur ChatGPT pour regarder. » On n'a pas pu leur cacher très longtemps l'existence de ChatGPT. Et ils ont très, très bien compris que ça allait écrire tout à leur place. À leur place.
Mais comment on fait alors, au-delà d'être pour ou contre, comment on fait pour s'emparer de cette technologie et bien l'utiliser ?
Il faut comprendre que la grande difficulté de notre monde actuel, c'est sa facilité. Et que le monde actuel va demander des gens qui vont réussir. En fait, vous allez avoir une très petite un très petit pourcentage de la population qui va s'en sortir, en fait. Qui va
faire l'effort.
Ouais, qui va faire l'effort, en fait. Je pense que c'est perdu pour une grande part, je pourrais être tout à fait lucide. Hein. Mais il faut essayer d'enlever une élite. Ça peut être n'importe qui peut venir de l'élite, mais je pense. Mais c'est l'élite, c'est celle qui va être s'autodisciplinée pour faire l'effort, oui, de continuer justement à faire des efforts, hein, de continuer à mettre le plaisir à distance, de continuer à apprendre des choses, de continuer pour rester le maître des machines et pas en devenir les esclaves serviles. Parce que, évidemment, le problème, c'est que la machine est comme l'argent, c'est un très mauvais maître et un formidable serviteur. Et ça, ça demande une énergie énorme. Et c'est pas la même énergie qu'il fallait autrefois. Autrefois, il fallait survivre. Il fallait s'adapter à la société. Ça demandait un type de travail qui n'est plus le même. Résister à la facilité du doom-scrolling, du défilement de la mort que vous avez. Comprendre qu'on est passé du droit-liberté au droit-créance, du droit-deux au droit-à, et que c'est absolument pas la même chose. Tout ça, ça nécessite un effort absolument énorme. Il y a peu de gens qui en sont capables.
Oui, alors ça, c'est intéressant parce qu'on dit demain, on aura peut-être besoin de moins de gens pour travailler ou pour produire la même richesse. Et on voit refleurir des théories sur un salaire universel. Donc, on disait, aujourd'hui, on n'a plus la survie en ligne de mire. Est-ce que, Christian de Boissieu, ça pourrait, peut-être une génération, dire, la richesse se partage avec un minimum, et puis ceux qui veulent travailler plus, ils pourront le faire, puis ceux qui ne travaillent pas du tout.
Bon, bien sûr qu'il va y avoir des différenciations importantes. En même temps, moi, je suis impressionné par les jeunes de 20 ans qui se donnent à fond dans un truc qui peut être les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, quand vous regardez les nageurs français, pour ne pas personnaliser l'affaire ou d'autres. Je veux dire, il y a des jeunes de 20-25 ans qui sont complètement à fond. Simplement, ils sont à fond dans des... Moi je reste persuadé que le sujet, aujourd'hui, au fond, est le suivant. Nous, on a été élevés avec l'idée qu'il y avait une sorte de hiérarchie entre les métiers, entre les carrières, qu'il fallait avoir le plus de diplômes et que c'était plus important d'être intellectuel, diplômé, que d'être, je ne sais pas, producteur de cinéma. Je prends n'importe quel exemple. Oui. Tout ça est légitimement remis en cause. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'éducation, moi, je reste sur mon principe que j'ai essayé de pratiquer avec mes enfants et peut-être mes petits-enfants, c'est dire, au fond, peu importe ce que tu fais, l'important, c'est d'être bon dans ce que tu fais. Et pour être bon dans ce qu'on fait, je pense qu'il faut... Là, il y a de l'effort. Ça ne tombe pas du ciel. Faut travailler d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est moins scolaire, peut-être moins universitaire, c'est plus ouvert. Je pense que nous, les anciens, comme on dit dans les Antilles, c'est-à-dire les gens plutôt jeunes, il faut qu'on soit complètement ouvert à ce renversement des valeurs. Moi, au départ, j'ai eu du mal à m'y mettre culturellement, parce que peut-être que j'ai trop travaillé scolairement quand j'étais jeune, peut-être. Pas assez fait de sport, d'autres choses. Mais c'est un problème générationnel, ça. Mais je ne suis pas pessimiste, je suis moins pessimiste qu'Olivier là-dessus.
Bon, Christian de Boissieu a donc raté sa carrière de nageur olympique.
J'aurais dû, moi qui n'aime pas l'eau en plus, alors donc je suis foutu.
Ou courir après. Mais c'est vrai que c'est intéressant, il y a même peut-être, je vois même par rapport à notre génération, la même génération qu'Olivier, il y avait cette notion de bien travailler à l'école, avoir peut-être le meilleur bac possible, il y avait une fameuse voie royale. On rentrait dans une grande entreprise, on était cadre, parce que cadre c'était très différent à l'époque, on avait certains privilèges, et de l'argent, alors qu'aujourd'hui on a même l'impression que c'est plus, et tant mieux peut-être, l'alpha et l'oméga, peut-être parce qu'on a déjà un filet de sécurité, comme on le disait, et qu'aujourd'hui les valeurs sont un petit peu différentes. Or, vous avez une vision là-dessus justement, sur ces nouvelles valeurs, ces élèves, à part le goût de l'effort, il faut leur insuffler la passion, comment on fait ?
Alors, indiscutablement, les enfants doivent avoir des paillettes dans les yeux, doivent rêver du futur, doivent rêver leur futur, et c'est ce qu'on essaie de faire. Parce que c'est vrai que, c'est ce que j'y reviens, mais le climat est anxiogène. Perfect. Aujourd'hui, et c'est ce que font, excusez-moi de reprendre l'exemple anglo-saxon, mais c'est ce que font très 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 bien les anglo-saxons. En fait, ils arrivent à créer des vocations.
Comment on valorise ?
Ils valorisent pas que les maths et le français. Et donc les maths et l'anglais. En fait, les sciences sont ultra valorisées, les maths sont valorisées, l'art est valorisé, la musique est valorisée et fait partie intégralement des enseignements. Et en fait, on valorise tous les talents. Je prends un exemple très concret. On organise par exemple à Concordia School Paris un talent show. Et il y avait un élève qui est arrivé et qui a fait un petit Américain qui était là depuis 6 mois, qui est arrivé avec le plan de métro. Et moi, je suis hyper mnésique. Il n'était pas très bon à l'école, mais il était hyper mnésique. Donc, il retenait tout. Et en fait, toute la salle lui disait, moi, je suis gare de Lyon et j'aimerais aller porte de Versailles. Comment je fais? Et hop, il consultait le... Il disait exactement les changements qu'il fallait faire, etc., etc. Et en fait, cet enfant... qui n'était pas très bon académiquement, a été valorisé par une salle qui était en délire. Il y avait 300 enfants qui le regardaient avec des grands yeux comme ça. Ça l'a boosté à bloc, ça lui a donné confiance en lui. Et globalement, tous ses résultats académiques se sont mis progressivement à monter. Et en fait, c'est un petit peu ça. Il faut valoriser des choses différentes que ce qu'on valorise dans le système français classiquement.
C'est le remède à la flemme, Olivier Babot ?
Le vrai remède à la flemme, c'est de trouver ce qui te meut, ce qui te fait bouger, oui. Et ta passion. En fait, si on est pris par la flemme, c'est peut-être parce que par du temps. Alors, soit on est déprimé parce qu'on t'a expliqué que c'était la fin du monde. Alors, effectivement, ça légitimement déprime. Hein, ça déprime légitimement. Soit tu n'as pas trouvé ce qui te meut. Si on prend l'exemple, effectivement, je sais pas, d'un grand joueur d'échecs, d'un champion olympique. Bah oui, par définition, c'est une toute petite partie d'une génération qui a trouvé une passion et qui s'y a investi de façon totalement folle en consacrant des milliers d'heures de travail. Effectivement, il y a peu de gens qui ne soient pas capables d'efforts extraordinaires le jour où ils sont pris d'une passion. Donc peut-être que le grand problème de notre civilisation, c'est moins l'absence de l'effort qui n'est qu'une conséquence que l'absence de capacité à déterminer ce qui les meut. Je me souviendrai toujours de ce que m'a dit un de mes professeurs à Paris 4, en l'occurrence en philosophie, qui nous disait, vous savez, dans la vie, parce qu'il nous parlait de la nécessité quand on faisait de la philo de se professionnaliser, parce que peu de gens arrivent à en vivre. Il disait, vous savez, dans votre vie, dans la vie, il faut surtout trouver quel est son genre de beauté. Et j'ai jamais oublié cette phrase. Oui. Trouver son genre, exactement. Alors un économiste aurait dit son avantage comparatif, mais alors les Japonais ont un mot qui s'appelle l'ikigai. C'est à la fois l'activité que tu sais faire, l'activité qui est socialement valorisé et l'activité où tu es suffisamment bon pour avoir un avantage. Mais je crois que l'idée de ton genre de beauté, c'est-à-dire ce qui détermine ta place, la place que tu penses te revenir dans le monde. Et là, c'est très aristotélicien. Mmh. Tu as une place qui tu es appelé à occuper une place et c'est cette place que tu dois déterminer. Et en fait, c'est pas facile du tout. Et d'ailleurs, il y avait peu de choses. Peut-être que Aurore, justement, fonctionne différemment dans son école, mais l'école, elle est très, très peu organisé autour de cette idée de passion, en fait. C'est probablement ce qu'on peut lui reprocher.
Ouais. Donc, un exemple, Olivier, vous-même, vous écrivez des livres. C'est vrai que l'ouvrage, un livre, ça impressionne beaucoup
de gens.
Et vous, vous faites facilement. Ça, c'est un plaisir.
C'est pas facile. D'abord, c'est un effort. C'est du travail. C'est austère. C'est sur le moment. C'est du plaisir qui est donné en un peu homéopathiquement, parce que finalement, c'est beaucoup d'efforts. Mais tu trouves du plaisir dans cet effort. C'est le plaisir de celui qui se couche en ayant accompli, en pensant avoir le devoir accompli. Et c'est aussi le plaisir de celui qui remercie celui que j'étais jeune, qui a fait les efforts, qui a mis le plaisir à distance pour aller passer, obtenir des diplômes, passer des concours, devenir professeur, et faire qu'aujourd'hui, moi, j'ai, de mon point de vue, pour ce que j'aime, moi, pour mon genre de beauté, le plus beau métier du monde. Voilà, de mon point de vue. Chacun a évidemment un point de vue différent.
Professeur d'économie, c'est également le plus beau métier du monde.
Je confirme, d'abord parce que l'économie est passionnante. Plus on avance, moins on comprend.
On comprend, ouais.
Et plus on a envie de comprendre. Bon, et deuxièmement, c'est un métier de seigneur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se retrouve à... Moi, je me suis retrouvé, je ne suis pas seul, je ne suis pas le plus jeune, je me suis retrouvé à 28 ans, prof de fac, pas de patron, on est son propre patron, on s'habille comme on veut, on trouve les cours, les bouquins, les voyages, les missions, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on se retrouve sans patron à l'âge de 28 ans ou à l'âge de 30 ans. Hein.
C'est vrai.
Et donc, voilà, moi je suis comme Olivier, je partage le goût de l'écriture. Et ce qui est marrant, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, je travaillais trop quand j'étais jeune, j'étais bon élève, sauf en français, où j'étais médiocre. Et c'est par l'écriture économique que j'ai retrouvé le goût de la langue française. C'est marrant. Oui. C'est-à-dire que
j'ai fait. Il y a eu un déclic, c'était en lisant.
Je sais pas, ça s'est fait tout seul. Ouais. C'est-à-dire que je suis capable d'écrire. J'écris des bouquins, comme Olivier le sait. J'écris des bouquins. J'ai un prochain bouquin qui sort au mois de février chez Odile Jacob sur la nouvelle guerre des monnaies. Excusez-moi de faire de la pub. Mais je veux dire par là que, au fond, alors que j'étais médiocre en français au lycée, j'écris des dizaines et centaines de pages, a priori en français, veux dire, et sans faute
d'orthographe. C'est plutôt correct.
Et j'ai retrouvé le goût de la langue à travers mon domaine technique.
Ouais. Est-ce que vous pensez que, justement, on parlait tout à l'heure de l'opposition peut-être d'une filière classique, on demandait au ministre tout à l'heure si la réussite c'était 99% de réussite au bac, est-ce qu'on peut aussi s'épanouir en étant carreleur, mécanicien, tourneur fraiseur?
Mais d'ailleurs, Aurore disait tout à l'heure, on met trop le paquet en France sur les matières traditionnelles, etc. Mais en tout cas, le résultat collectif, il n'est pas bon. Vous regardez la dernière étude, on est très mal classé en mathématiques, au collège, primaire et collège. Donc il y a un truc qui ne va pas là. C'est-à-dire qu'on met le paquet sur les trucs conventionnels, et au bout du compte, qu'est-ce qui sort? Il sort le fait que dans les classements internationaux, et ce n'est pas uniquement PISA ou CDE, c'est d'autres classements, on perd énormément de terrain par rapport aux pays avancés, mais aussi par rapport aux pays émergents. Donc il y a un problème de non-efficacité du système là.
J'ai une question, et puis après, malheureusement, ce sera l'heure de conclure, mais c'est important d'en parler.
Il faut que je dise deux mots quand même de la finance climatique.
Oui, bien sûr. L'éducation, ça nous coûte cher, ça nous coûte même un pognon de dingue. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros par élève. On pourrait vous reprocher, Aurore, de relonger, parce que tout ça est bel et bon, ce que nous a expliqué, ça serait, on voudrait tous avoir nos enfants dans un tel système. Ça coûte chez vous 15 000 euros par an. À peu près pour un élève, pour un an de scolarité. Donc en fait, si on fait le calcul, c'est quoi? C'est 50% de plus que ce qu'on dépense aujourd'hui, mais collectivement.
Oui, absolument, ça s'explique.
Est-ce que c'est un problème de moyens ou est-ce que c'est un problème d'organisation? Voilà.
En fait, les deux. En fait, aujourd'hui, évidemment, il y a un surpoids. On a un acteur récent, on est arrivé il y a 6 ans sur le marché. En fait, l'immobilier représente un poids colossal, évidemment, parce qu'en fait, on est dans Paris, on est au cœur de Paris, donc il y a un surpoids lié à l'immobilier qui n'est pas amorti comme tous les bâtiments des écoles publiques et des écoles privées. Voilà. Et en plus, il y a un surpoids des ressources humaines, parce qu'en fait, on a plus d'encadrement de nos élèves et un budget formation considérable, parce que nous, la formation de nos professeurs est totalement clé, on n'en a pas parlé, de notre projet
c'est
éducatif.
C'est la clé, vous dites, ouais.
Voilà.
La formation. Et ça voudrait dire que, à contrario, les professeurs sont pas assez formés.
Il faut toujours plus de formation. Le monde est en train de changer à une telle vitesse qu'il faut absolument les former en permanence, mais comme tout le monde dans n'importe quel secteur. Mais quand on voit le tsunami de l'intelligence artificielle dont vous parliez, en fait, il est urgent de mettre à niveau tout le monde, les professeurs y compris. L'éducation est particulièrement touchée par ça.
D'accord. Christian de Boissieu, donc on va aborder
complètement le sujet là.
Votre sujet, bah oui, mais c'est pas très grave. C'est peut-être le lien également, puisqu'il y aura sûrement des gens qui vont s'intéresser à la marche du monde, la finance durable. On en parle de plus en plus.
La finance climatique.
C'est une partie
de la finance durable.
Oui. Qu'est-ce que c'est la finance climatique?
La finance climatique, c'est toute la finance qui aujourd'hui sert à financer ce qu'on appelle la transition énergétique et écologique. Et ça prend de plus en plus d'importance parce que tout le monde est concerné par cette transition, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Et quand vous regardez les prévisions, il faut aujourd'hui, d'après les spécialistes, arriver à mobiliser au plan mondial plusieurs milliers de milliards de dollars. Nous en France, on estime, je pense au rapport Pisani-Ferry de l'année dernière, qui est d'ailleurs peut-être sous-estimé, il faut qu'on arrive à mobiliser un peu plus de 60 milliards d'euros par an, plus de tout ce qu'il y a à financer, les charges d'intérêt, l'éducation, la santé, etc. Donc, ça va prendre...
C'est dommage, ça sera peu ou prou ce qu'on a remboursé sur la dette chaque année. C'est peu ou prou.
C'est à peu près, puisque les charges d'intérêt sur la dette publique en 2024, cette année, c'est 52-54 milliards d'euros.
Et ça va passer à 75.
Donc, simplement, si j'ai voulu en dire deux mots autour de cette table, c'est parce que, au fond, la finance climatique pour financer la transition énergétique et écologique, elle, par définition, elle a une dimension éthique. Ça ne veut pas dire qu'elle recouvre tout. Il y a de la finance éthique en dehors de la finance climatique. Je ne suis pas en train de fusionner les deux. Je dis simplement pourquoi je trouve qu'il y a une dimension éthique dans la finance climatique. D'abord parce que c'est la finance de long terme.
Oui.
De long terme. Pour financer des énergies nucléaires ou renouvelables, c'est pas des crédits bancaires à 6 mois. C'est des investissements et des financements à 20, 25, 30 ans. Et donc, vous avez un perspective de long terme. Deuxième remarque qui lui donne une dimension éthique, c'est une finance qui n'est pas déconnectée, j'allais dire, de ce qu'on appelle l'économie réelle. Il y a une partie de la finance aujourd'hui, si je prends la finance en général, qui tourne un peu sur elle-même. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et cette finance climatique, par définition, elle ne tourne pas sur elle-même. Elle sert à financer des choses, des équipements très importants, à la fois ce qu'on appelle l'atténuation des émissions de carbone et l'adaptation face au changement climatique. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un sujet important, je voudrais faire deux remarques pour terminer et pas être trop long. C'est que, au fond, tout ça s'inscrit dans un contexte où, au fond, les valeurs sont en train de se diversifier. C'est-à-dire, à côté des critères financiers, de la rentabilité oui. financière, vous avez la montée dans tous les pays, compris en France, de ce qu'on appelle la montée des critères extra-financiers. Les entreprises sont complètement concernées par la montée de ce qu'on appelle les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Bon. Ça, c'est incontournable. C'est en train de changer la vie des entreprises. Quand je dis les entreprises, les banques, tout le monde.
Oui, tout le monde s'y met.
Tout le monde est concerné. Simplement, deux remarques conclusives là-dessus sur la montée de l'extra-financier qui est liée justement à ces problèmes de lutte contre le changement climatique qui est une des composantes de l'extra-financier, qui n'est pas la seule, je l'ai dit, quand on prend les critères ESG. C'est que il faut essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Parce que vous avez ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire des entreprises qui émettent des obligations soi-disant vertes et qui ne sont pas du tout vertes, qui servent à financer autre chose que la transition. Donc il faut mettre de l'ordre là-dedans pour réduire le greenwashing. Ça suppose de standardiser, de mettre en place des normes, ce qu'on a essayé de faire au niveau européen. En même temps, il ne faut pas aller trop loin dans le normatif. Il ne faut pas...
Dans la réglementation.
Voilà, dans la réglementation. Et l'Europe est en train, à mon avis, d'aller trop loin. Avec la directive CSRD, qui est obligatoire pour les entreprises progressivement, on a commencé par les grandes, ça va aller vers les petites entreprises qui doivent se conforter à ces nouveaux critères ESG à travers cette directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, la directive sur la durabilité. Et au fond, les autres continents avancent, régule un peu moins, je pense aux États-Unis, je pense évidemment à la Chine, etc., sur certains points, je pense au Japon.
Oui.
Et nous, on norme. Alors, il faut à la fois normer pour essayer de se mettre d'accord au niveau européen, parce que c'est pas nécessairement au niveau d'un pays donné, de la France, qu'on peut régler tous ces problèmes. Le nuage s'arrête pas à Tchernobyl, si je puis dire. Nous sommes tous dans le même bateau qui s'appelle le changement climatique. Mais il faut pas trop normer. Et dernier point, sur cette directive CSRD, Un de mes collègues, un de mes amis qui est dans des conseils d'administration de grosses boîtes me dit aujourd'hui dans les conseils d'administration, ça devient ESG, ça devient presque le seul sujet. Il faut que ça devienne un sujet, mais pas le seul. À côté de l'extra-financier, vous avez quand même des problèmes et des critères de rentabilité financière assez classiques qui doivent subsister. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur ce sujet qui, à mon avis, va rester dans l'air, et plus que dans l'air,
bien sûr.
Pour les années
ça
qui viennent.
Ça pourrait faire un prochain colloque, justement, sur cette finance dite durable, et puis le fléchage, effectivement, de l'épargne des Français sur du temps long. Pourquoi pas
Voilà, on a besoin de financement à long terme, alors que l'épargne dans le monde, en Europe et en France, une épargne liquide ou à court terme...
Et il y en a beaucoup.
Comment on règle tout ça? C'est un problème de tuyauterie, mais ça n'est pas qu'un problème de tuyauterie.
Ouais. Un mot de conclusion, Olivier Babot, et puis on rappelle le nom de votre ouvrage.
L'ère de la flemme.
Voilà, c'est pas l'art de la flemme, on précise.
Ah non, qui... non, mais c'est très marrant.
Ouais. Ouais, ça serait...
C'est l'ère.
Et l'ère. Aïe-re.
Non, ouais, c'est ça, voilà, en plus aussi. C'est l'ère de la flemme. Ben oui, c'est contre la civilisation du Deliveroo, du plaid, du canapé. Alors, c'est vrai que... Il y a beaucoup de gens, c'est marrant, qui disent « Ah, mais non, mais c'est formidable, la paresse, etc. » Mais ces gens-là, en général, sont des travailleurs d'arrache-pied qui ont publié des dizaines de bouquins, qui sont des intellectuels connus. Et alors, c'est vrai que ça fait très, très bien de dire que la paresse est merveilleux, mais on parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas de l'osium, on ne parle pas du loisir studieux, évidemment, que je promeux naturellement.
C'est comme l'Américain qui a écrit la semaine de 4 heures qui bosse 120 heures par semaine.
Oui, non, mais c'est ça, exactement. Ça, exactement. Donc c'est un peu comme les gens qui disent que l'intelligence, ça n'a aucune importance, c'est ceux qu'on s'entraîne de cuire.
Voilà. J'ai un livre sur le sujet que j'ai évoqué devant vous qui s'appelle Réussir la transition énergétique et écologique. Je l'ai co-dirigé, sorti au mois de juin aux éditions SK, je fais un peu ma pub, co-dirigé avec Dominique Chéneau. Et je parlais du bouquin à venir en février qui porte sur autre chose, mais tout ça est un peu lié dans le monde aujourd'hui. La nouvelle guerre des monnaies, les rapports entre les cryptos, les monnaies publiques digitales, enfin, le monde d'aujourd'hui, le monde monétaire qui est en train de changer avec des enjeux de souveraineté et de contrôle.
Donc, l'ère de la flemme, la nouvelle guerre des monnaies.
Malheureusement, l'ère de la guerre. Mais je prends la guerre des monnaies au sens figuré du terme.
Et Orlonguet, vous avez un bouquin qui va sortir sur...
Pas encore. Absolument pas, mais je pense qu'il faut garder espoir. Nos enfants ont un talent monstre. L'éducation, l'innovation pédagogique est partout. Et les réformes sont possibles. Ça a été fait dans plein de pays. Et la France... j'espère va le faire et peut le faire.
Ouais, ouais, il faut rassurer et puis booster nos enfants dans ce monde, c'est vrai, un petit peu anxiogène. Merci à vous trois. En tout cas, c'était un plaisir d'animer cette conférence. Olivier Babeau, Institut Sapiens, Christian de Boissieu, professeur d'économie émérite, et Aurore Longuet de Concordia Bilingual School. Paris. Voilà, dans un instant, on se retrouve pour continuer cette conférence éthique. On pensera sur cette question. La société est-elle en perte de repères? Mais tout de suite, je vous propose de regarder le témoignage de Christian Rodriguez. C'est un ancien directeur général de la Gendarmerie nationale. On se retrouve juste après.
Général Rodriguez, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour un sujet qui, alors là, franchement, est d'actualité. Parce que vous le savez, notre colloque est sur l'éthique et en particulier le changement de mentalité, les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le pays, avec, on a l'impression quand même, une forme de décadence. Le mot est peut-être un peu fort, mais je crois qu'il y a quelque chose là-dessous. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que bon, la gendarmerie, vous savez que ça me tient terriblement à cœur, puisque je suis réserviste, citoyenne bien sûr, et j'ai un peu l'impression que vous êtes un peu le dernier rempart. Le dernier rempart, parce que, alors, je précise aussi, bien sûr, qu'il y a la police, mais je crois que la gendarmerie et la police, c'est pas tout à fait pareil, que d'ailleurs, la gendarmerie, c'est l'armée aussi, et que il y a une tenue, une façon d'aborder les choses, qui est effectivement une colonne vertébrale.
Bon, bonjour Sophie, bon, je suis également très heureux d'être parmi vous. En fait, il y a beaucoup de questions dans votre question. Dernier rempart, je dirais, alors la gendarmerie n'est pas la seule, hein, vous l'avez dit, vous avez cité la police, les armées, des institutions qui sont là quand les choses sont compliquées. Je pense effectivement que la période, on est dans une période d'incertitude d'une manière générale. Moi, je suis de cette génération qui a vu tomber le mur de Berlin, qui imaginait que jamais on aurait un char qui traversait une frontière, et puis on a vu ce que ça a donné en Ukraine. La situation internationale est compliquée, la situation nationale est compliquée, et on a des tas de sujets qui sont posés. Donc, effectivement, la gendarmerie, avec d'autres, est là, dans ces moments compliqués, et sa mission, sa tâche, la mission est toujours la même, et sa tâche est de plus en plus difficile, parce que l'adversité, c'est aussi s'adapter, et pose de nombreux sujets dans de nombreux endroits. Je pense que les médias le disent de manière assez régulière. Sur les différences entre les uns et les autres, c'est vrai que la gendarmerie est un corps militaire qui est très attaché à son statut militaire, et le président l'a répété à de nombreuses reprises, comme les différents ministres. Je pense que le statut militaire est un statut, comment dire, qui est très actuel, parce que lorsque c'est compliqué, en fait, et d'ailleurs les armées ont été aussi créées pour cela, lorsque c'est compliqué, le statut militaire est un atout, est une aide pour faire face aux situations difficiles, pour s'adapter quand il faut s'adapter vite à des situations compliquées. Je pense que c'est un véritable atout, et moi je l'ai vécu lorsque j'étais encore en responsabilité pendant toutes ces années, et j'ai en tête les images de Nouvelle-Calédonie par exemple, ou des images de manifestations un petit peu dures. Je pense que c'est un atout, et ça simplifie les choses. Et c'est aussi quelque part, ça contribue à la garantie que l'on doit offrir à la population de pouvoir préserver l'ordre public et de laisser le niveau de violence au niveau le plus bas possible, bien que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, toujours compliqué.
Oui, alors j'ai presque envie de dépasser ça, parce que c'est vrai, on le sait, vous avez fait vos preuves, etc. Mais j'ai envie de dire qu'on est dans un pays mal élevé, est-ce que les gendarmes peuvent avoir une forme de pédagogie, réagir de façon différente avec les citoyens que nous sommes? J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus à faire, peut-être au-delà même de vos missions militaires, mais une approche différente. Est-ce que, par exemple, d'ailleurs, les réservistes peuvent aider à ça?
Oui, enfin, en tout cas, vous avez raison. Il faut avoir une approche qui soit plus élaborée qu'elle ne l'a été, mais on y travaille déjà depuis de nombreuses années. Je pense qu'il y a un fondamental, et tout le monde a toujours été d'accord là-dessus dans les maisons de gendarmerie, c'est que le gendarme doit être proche du citoyen. On ne peut pas être normatif au quotidien et dans le même temps être très éloigné des gens avec lesquels on travaille. Et c'est tout ce sens du gendarme au cœur de la cité qui habite dans la brigade dans laquelle il travaille et au plus proche de la population. Vous citez les réservistes, c'est une pépite, la réserve. Parce que les réservistes ont un double...
J'ai l'impression que je ne sers à rien. Réserviste citoyenne, je ne sers absolument à rien. Et ça me désespère. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses à envisager, y compris pour les jeunes.
Alors, vous savez qu'il y a plusieurs types de réserves. Il y a la réserve citoyenne,
bien sûr.
La réserve opérationnelle. Et dans la réserve opérationnelle, ça va du gendarme dans son unité, du gendarme de réserve, jusqu'au gendarme expert que l'on recrute pour amener sa compétence dans un domaine dans lequel les besoins sont importants, le cyber, pour ne citer qu'un seul domaine.
Oui.
Peut-être que vous, individuellement, mais votre hyperactivité constante fait peut-être que c'est compliqué de vous trouver de la bande passante. Mais en tout cas, on essaye vraiment d'employer à fond cette réserve citoyenne qui nous apporte, en termes de regard particulier, le pas de côté, qui nous apporte également... Une proximité qui en fait nous challenge dans notre relationnel, chacun en fonction de ce qu'il peut apporter. Donc, quand vous dites vous avez le sentiment de ne servir à rien, j'espère que ce n'est pas le cas de tous les réservistes citoyens, je sais que ça n'est pas le cas. Toujours est-il qu'on peut toujours faire davantage, vous avez raison.
Je suis même en train de penser au monde de l'entreprise, d'ailleurs, si vous avez un message, c'est le moment. Parce que nous, on a de temps en temps des gendarmes qui viennent pour expliquer, pour nous demander d'ailleurs de libérer du temps un peu pour les réservistes. Et je pense qu'on pourrait imaginer d'avoir des missions un petit peu dans les entreprises, d'aller un tout petit peu au-delà de ça. Et je crois qu'il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, si vous avez encore une fois besoin qu'on recrute, c'est le moment de le dire aussi.
Oui, alors, bien sûr, on en a besoin. Et le « on » est très collectif. Hein. Ce sont les armées, la police nationale aussi, qui montent en puissance de manière importante avec sa réserve. Je salue également le travail de la garde nationale, puisque vous savez que la garde nationale coiffe l'ensemble des réserves, enfin la coiffe, est en fait l'institution qui va justement au contact des entreprises pour inciter les chefs d'entreprise à permettre à leurs employés de pouvoir avoir du temps pour être dans la réserve. Il y a les lois bougent, les textes bougent. Et d'ailleurs, j'observe qu'avec les périodes un petit peu compliquées, les entreprises ont beaucoup bougé. Donc, il faut continuer. Je pense vraiment que ça a plusieurs intérêts. Ça a un intérêt en termes de soutien et d'aide de ceux qui ont cette réserve, les armées, la police, la gendarmerie et d'autres. Et puis, je ne serais pas surpris que d'autres institutions s'y mettent également davantage. Mais ça a également un intérêt... En deuxième couche, si j'ose dire, dans la relation que nous devons entretenir avec les forces vives de la nation, les entreprises en font partie, les collectivités territoriales. Et en fait, dès lors qu'on a des réservistes qui sont ça ou là, les relations se soudent beaucoup plus naturellement et beaucoup plus vite. Donc, les effets sont
meilleurs. Vous avez raison, mais là, je vais rentrer dans le détail. Mais par exemple, les Jeux Olympiques, nous avons tous remarqué la politesse. Des gendarmes bien sûr et des policiers totalement inhabituels. Je parle de la police. La police encore, j'ai été arrêtée hier, c'était très mal, j'avais un téléphone sur les genoux. Bon, la courtoisie de la police, elle est absente. Alors je comprends, ils sont devant probablement des gens violents, etc. Mais il n'y a plus du tout d'amabilité, de compréhension, d'attention. On le constate un peu partout. Ce qui n'est pas le cas de la gendarmerie, il faut le dire. Et est-ce que, alors pourquoi est-ce que pendant les Jeux Olympiques, tout le monde était émerveillé? Il vous dit, mais non, mais je vous en prie, mais non, arrêtez. Enfin, d'habitude, on est plutôt soumis à des ordres secs et pas forcément très courtois.
Alors, je ne veux pas généraliser.
Il y a une différence quand même. Il y a eu des consignes au moment des Jeux Olympiques?
Alors, bon, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur de l'époque avait demandé à ce que les gendarmes et les policiers aient le sourire. Maintenant, dans le quotidien, c'est une nécessité. Encore une fois, la proximité on ne l'a pas en étant violent, en étant vulgaire, en étant incorrect avec les gens que l'on rencontre, quand bien même on va les verbaliser quand on a été posé sur les genoux. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu sur les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. On a aussi parfois des gens qui sont très incorrects avec les policiers.
Très,
les gens. Et c'est un métier qui est compliqué. Le métier de contact, d'une manière générale, est difficile et compliqué. Alors là, c'est sûr que tout le monde, lorsque, encore une fois, j'étais en responsabilité, ben, tout le monde était aimable avec moi. Mais avec le gendarme sur le terrain qui voit quelqu'un dans sa voiture, c'est beaucoup plus compliqué. On a beaucoup plus de gens qui sont absolument très incorrects avec les gendarmes, avec les policiers.
Alors, vous mettez le doigt dessus parce que c'est dans les entreprises, c'est la même chose. Les jeunes, il faut leur apprendre à dire bonjour, merci, à écrire des mails polis. Enfin, on a une éducation à faire. Et est-ce que vous avez un peu du côté de la gendarmerie pris en considération cet état de fait, ce relationnel? Est-ce que vous changez un peu votre formation? Est-ce que vous travaillez là-dessus?
Oui, on y travaille. Lors de la formation formation initiale, la formation continue de nos gendarmes, nos gradés, nos officiers, c'est un sujet qui est important. Encore une fois, ça met tout le monde dans la meilleure des configurations. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, le gendarme, il vit au milieu de ceux avec lesquels il travaille, ou le contraire. Et en fait, il vit sous le contrôle social permanent de la population sur laquelle il veille. Le gendarme et sa famille doivent se tenir tranquilles, sinon le gendarme perd toute légitimité dans son travail quotidien. Donc, oui, ça fait partie de la formation, et c'est quelque chose, c'est fondamental. Et celui qui ne comprend pas cela aura beaucoup de mal dans son travail. Donc, vous avez raison, il faut y revenir dessus. Je ne généralise pas, certains comprennent beaucoup plus vite que d'autres. Mais en tout cas, ça fait absolument partie des fondamentaux, que l'on soit policier, gendarme, agent public d'une manière générale.
Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais j'ai des enfants qui ont été scouts et les jeunes qui sont scouts, c'est une merveille. Je veux dire qu'il y a là une éducation qui n'est pas donnée à l'école, qui n'est pas forcément donnée à la famille, avec des fondamentaux, le respect du drapeau, etc. C'est assez important. Donc, je pense que la période fait qu'il faut aller au-delà et plus loin. Et est-ce que vous avez un conseil là-dessus à donner aux entreprises? Comment vous aider?
Alors déjà, on a, depuis maintenant quelques années, créé les cadets de la gendarmerie. Donc, ce sont des jeunes quand on a des arrière-pensées en espèce, ce sont des jeunes que l'on peut amener vers une carrière de réserviste opérationnel. Mais en tout cas, tous ne sont pas, n'ont pas vocation, n'ont pas envie de venir. Mais ça nous permet de prendre des jeunes. Et puis, en fait, d'ajouter à la formation, à l'éducation qu'ils ont chez eux, à l'école. Et ça marche très bien. Les pompiers le font depuis plus longtemps que nous. Ça marche très bien également. Bon, je pense que ces initiatives-là sont des excellentes initiatives.
Comment on est cadet de la gendarmerie?
Pardon?
Qu'est-ce que c'est un cadet de la gendarmerie? Comment y accède-t-on? Il faut s'engager? Enfin, qu'est-ce que c'est précisément?
Ça n'engage à rien. Ce sont des périodes bloquées qui sont organisées en principe au chef-lieu de chaque département. Oui. Des associations qui d'ailleurs sont souvent pilotées par des réservistes citoyens. Et ce sont des jeunes à qui on essaye d'inculquer des valeurs, que l'on essaie un peu de préparer finalement peut-être une carrière de réserviste ou en tout cas à une situation de citoyen un peu mieux instruit. Des règles, des contraintes, des droits, mais surtout des devoirs.
Parce qu'en fait, c'est à partir de quel âge?
Alors écoutez, j'ai plus en tête l'âge, c'est avant la majorité.
14-15 ans.
Oui, je pense que c'est de l'ordre de 14-15 ans.
Et alors, par contre, pas grand monde ne le sait. Moi, je ne le savais pas. Et où est-ce qu'on peut s'adresser? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Voilà, il faut s'adresser à la gendarmerie du chef-lieu du département.
À Paris, par exemple. À Paris.
À Paris, la région de gendarmerie de France. Oui. Je vous ferai passer les coordonnées pour que vous puissiez les diffuser. Mais à Paris, comme partout en fait, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est une superbe réussite.
Eh ben, écoutez, c'est le mot de la fin. Je vous remercie infiniment et on va s'attacher à tout ça parce que c'est une responsabilité individuelle qui est en jeu et nous devons redresser de ce point de vue-là notre pays. Donc, merci infiniment, Général, et on fera appel à vous.
Merci à vous et n'hésitez pas.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, merci.
Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.
Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous par cette vidéo parce que, pour tout vous dire, je ne pouvais malheureusement pas être présent à votre table ronde et lorsque Sophie m'a autorisé à m'adresser à vous sur ce sujet qui est absolument essentiel, qui est celui de l'exemplarité en politique, j'étais évidemment très heureux de pouvoir le faire par cette vidéo. Du coup, je vous parle depuis mon bureau de la mairie de Meaux, au calme, tranquille. Et j'en profite pour vous dire un certain nombre de choses auxquelles je crois et que je voudrais partager avec vous sur ce sujet. Alors, la question telle que Sophie nous la pose et me la pose, qui est de dire, en gros, est-ce que le devoir d'exemplarité en politique, c'est toujours d'actualité? Bah oui, évidemment que c'est d'actualité. Non seulement c'est d'actualité, mais j'ai envie de vous dire de manière très, très simple que, de mon point de vue, si on est d'accord sur les termes, eh bien, évidemment qu'on a un devoir d'exemplarité. Alors, évidemment, quand je vous dis qu'il faut s'entendre sur les termes, c'est parce que la notion d'exemplarité, ça peut pas être utilisé à toutes les sauces. L'exemplarité, ça veut dire, en gros, qu'on sert d'exemple, de référence, de modèle. Et donc, oui, il y a au moins deux domaines dans lesquels il y a une exigence d'exemplarité en politique. Premièrement, c'est le comportement, l'attitude. Et puis, deuxièmement, ça, on n'en parle jamais, c'est des résultats. Parce qu'effectivement, il y a une exigence de résultats qui doit être un élément consubstantiel de l'exemplarité en politique. Et je vais vous en dire un mot dans un instant. Je pense que c'est certainement sur ce sujet que les responsables politiques sont les plus défaillants. Alors, bon, sur le comportement comme sur les résultats, il y a deux poids, deux mesures. Et la vérité, c'est que selon le parti auquel on appartient, selon que l'on soit avec les extrémistes, que ce soit d'ailleurs extrême droite, Le Pen ou extrême gauche, Mélenchon, il y a une indulgence naturelle, alors que lorsque l'on appartient à un parti de gouvernement, censé assumer des responsabilités, donc être sérieux, limite un peu ennuyeux, si vous voyez ce que je veux dire, alors là, les exigences sont absolument à tous les étages. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister. Alors, d'abord le comportement, avant de parler de l'exigence de résultat. Sur le comportement, ben, ça vaut la peine peut-être de prendre une seconde pour se demander qu'est-ce que c'est que le devoir moral d'exemplarité dans le comportement. De mon point de vue, c'est une chose, c'est de respecter les lois. Les lois, elles sont dans ce domaine-là, elles sont surabondantes, elles sont très exigeantes, elles sont très sévères en cas d'infraction, certains pourraient même trouver qu'elles sont trop sévères, mais après tout, c'est bien ainsi, parce que dans ce domaine-là, eh bien c'est vrai qu'on doit les respecter, et pendant trop trop longtemps, il y a beaucoup trop d'hommes ou de femmes politiques qui n'ont pas respecté les lois, parfois en toute impunité. Donc oui, je pense qu'il faut respecter la loi. À une condition, évidemment, c'est que ces lois soient claires. Et puis, bah, peut-être une deuxième condition, c'est que les responsables politiques qui sont mis en cause soient respectés tant qu'ils ne sont pas déclarés coupables, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on rentre dans un univers qui est absolument effroyable. Pour l'avoir expérimenté il y a 10 ans, au moment de l'affaire des comptes de campagne de Sarkozy, la fameuse affaire Big Malion, avant d'avoir été totalement innocenté par la justice, j'ai vraiment vu très très concrètement ce que c'était que la haine. Je l'ai d'une certaine manière touché du doigt, avec un déchaînement de la presse, d'une certaine presse, mais aussi des commentateurs politiques en tout genre, alors même que, je répète, j'ai été totalement innocenté à la fin, mais qui m'a fait beaucoup méditer en fait sur qu'est-ce que ça veut dire la notion de présomption d'innocence, qu'est-ce que c'est que l'exemplarité. Et en fait, j'ai vu les désastres de la rumeur sur l'honneur des responsables politiques. Et ça a eu, en ce qui me concerne, ça m'a amené à avoir des vraies réflexions philosophiques sur ce que ça voulait dire, s'engager pour son pays quand on est à ce point la cible de la haine. Alors c'est important que je vous dise ça, parce que quand Sophie m'a proposé de vous parler d'exemplarité, j'ai vraiment eu envie de vous dire ça. Je crois beaucoup, moi, à l'exemplarité, au sens du respect de la loi. Tous autant que nous sommes, nous devons être très attentifs à ça. Nous sommes un pays de droit. Et donc, cette question de respecter la loi dans l'exercice de nos mandats, maire, parlementaire, je l'ai été, membre du gouvernement, c'est essentiel. Ce qui, en revanche, doit être la contrepartie, c'est de respecter les gens. Et c'est vrai que c'est, de mon point de vue, la grande faille de l'époque dans laquelle on vit. Alors, après, il y a l'exemplarité en ce qui relève, non pas du respect de la loi, c'est encore une fois, je le répète, c'est intangible, mais de quelque chose d'un peu plus soft à établir, c'est l'attitude, le comportement. Et là aussi, j'ai envie de vous dire, il y a quand même deux poids, deux mesures. Parce que quand vous êtes dans un parti extrémiste, finalement, vous vous fichez de tout. Et on vous laisse vous ficher de tout. Ça fait partie du spectacle. Alors que quand vous êtes membre d'un parti de gouvernement, alors là, il ne saurait manquer un bouton de guêtre, ni un bouton de costume. Là-dessus, on est d'une exigence extrême. Pour les partis de gouvernement, c'est bien normal. Je regrette que ce ne soit pas tout à fait le cas pour les partis extrémistes. Enfin, c'est vrai que sur les questions d'attitude, on touche quand même le fond. À supposer qu'il y ait encore un fond, parce que peut-être qu'on peut encore descendre plus bas, mais quand je vois le spectacle de l'Assemblée nationale, des parlementaires LFI qui arrivent avec des jeans, des t-shirts, qui trouvent que tout ça est normal, qui ont les uns et les autres dans l'hémicycle renoncé à la cravate, alors que c'est un symbole d'autorité, de respect de l'institution quand on est dans un hémicycle ou quand on est membre d'un gouvernement, cette capacité d'avoir des propos hyper violents, mais qui dépassent tout, et qui finalement ne sont pas sanctionnés, parce que comme le bureau de l'Assemblée qui est chargé de sanctionner est composé majoritairement de gens de LFI maintenant et du RN, en réalité on peut même plus sanctionner, parce qu'ils se mettent d'accord entre eux, évidemment, pour empêcher les sanctions. Et là, à chaque fois, toujours cette même indulgence, on dit « oui, mais c'est normal, c'est LFI ». C'est des mélenchonistes. Ou « non, mais c'est normal, vous savez, c'est le Rassemblement National, alors les uns et les autres s'insultent, tout ça est normal ». La vérité, c'est que derrière tout ça, il y a la contestation des institutions, il y a, pour ce qui concerne l'extrême-gauche en tout cas, une approche délibérée qui est celle du wokisme. D'ailleurs, on entend des propos antisémites, bien sûr, mais vous notez qu'on n'entend pas de propos anti-islamique ou de propos contre les minorités ou de propos contre racistes, par exemple, contre nos compatriotes de couleur noire. Ça dit beaucoup de choses sur le fait qu'on choisit ces exclusions. Et là aussi, avec une indulgence intellectuelle qui est insupportable, parce qu'en réalité, on doit combattre toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient. Tous les propos racistes, quels qu'ils soient, doivent être condamnés. Cela relève de l'exemplarité? Eh bien non. Ça fait partie de ces choses qui, pour des gens qui ont exercé des responsabilités ou qui en exercent, comme moi, c'est insupportable. Parce qu'on se dit qu'effectivement, on scie la branche de la démocratie sur laquelle on est assis. Et c'est nous qui, par notre laxisme, acceptons ça. Alors, bien sûr, ça m'amène à vous dire un mot aussi sur l'exemplarité, sur les résultats. Parce que, en fait, c'est le grand chaînon manquant en matière d'exemplarité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le respect des lois, pour moi, c'est pas négociable. Je suis d'ailleurs choqué régulièrement, moi, et je le fais jamais, d'entendre des responsables politiques hurler contre l'institution judiciaire. C'est de bon ton de dire que les juges sont tous contre le pouvoir, etc. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Je peux, moi, en témoigner. D'abord, en tant que maire de Meaux, le parquet de Meaux travaille dans des conditions très difficiles pour la lutte contre la délinquance, avec des résultats assez remarquables, contrairement à ce qu'on raconte. Les juges du siège, en comparution immédiate, travaillent parfois jusqu'à minuit, personne n'en parle. Mais cette magistrature-là, avec des moyens limités, elle fait en réalité un travail qui mérite d'être vraiment reconnu et salué. De la même manière, bien sûr qu'il peut y avoir ici ou là des excès, la justice des hommes, elle est faite par les hommes. Mais moi, j'ai jamais trop aimé la manière dont certains responsables politiques hurlent au procès politique quand ils sont mis en cause, parce que parfois, c'est pas totalement infondé, donc il faut laisser la justice travailler, et autant je mets de côté les commentaires de presse qui sont la plupart du temps biaisés, orientés, et souvent ignobles, autant il faut laisser la justice travailler, et puis il y a tellement de voies de recours. À la fin, on peut raisonnablement penser que quand une décision de justice est rendue définitivement, elle est rendue définitivement et elle doit être respectée pour ce qu'elle est. En revanche, là où, de mon point de vue, il y a un vrai sujet d'exemplarité, c'est sur les questions de l'action politique et des résultats. Et là, c'est sidérant de voir qu'aucun responsable politique, jamais, n'est sanctionné pour les résultats qu'il n'a pas obtenus, pour les promesses qu'il n'a pas tenues. Alors, bien sûr, il faut attendre des élections. Alors, bien, les élections, ça doit permettre ça. Sauf que c'est brouillé souvent, c'est brouillé. Et moi, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus exigeant, que les responsables politiques rendent des comptes sur leur action, sur leurs résultats, sur leurs succès, sur leurs échecs, sur les promesses non tenues, sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas réussi, peut-être parce qu'ils se sont fait lire sur des promesses intenables, stupides, et que c'est ça qui coûte à la France. Quand on est élu en proposant la retraite à 60 ans ou les 35 heures, comme ce fut le cas dans les années 80 et ensuite 90, les résultats sont désastreux. Regardez le mal qu'on a réformé les retraites aujourd'hui. Et ça, c'était l'issue d'une promesse de campagne dont les résultats sont catastrophiques. Personne n'a le courage d'en faire l'évaluation. De la même manière que sur un certain nombre de sujets, les hommes politiques ou des femmes politiques s'engagent, prennent des décisions. Quand Macron a supprimé la taxe d'habitation, c'était très populaire, les 20 milliards d'euros perçus par les collectivités locales. Sauf que résultat des courses aujourd'hui, c'est l'État qui paye les 20 milliards aux collectivités. Donc le contribuable reste le contribuable, faut payer. Et puis deuxièmement, il n'y a plus aucun lien entre le citoyen et l'impôt local. Et ce que fait l'élu local. Eh bien aujourd'hui, on le paye très cher et c'est une des causes du déficit que nous avons aujourd'hui. Parce que les 20 milliards de déficit de l'État, quand on en cherche 60, on saurait où les trouver. Voilà typiquement le genre de décision sur lesquelles il n'y a aucune évaluation et qui, à l'évidence, pèse dans la notion d'exemplarité de l'action politique. Finalement, le lien entre conquête du pouvoir et exercice du pouvoir, le lien philosophique entre la décision qu'on promet pour gagner et qui ensuite peut conduire à un désastre politique. Et dans ce domaine-là, je pense qu'en réalité, la question de l'obligation de résultat, elle est sur toutes les lèvres. Et que la crise de la démocratie, c'est pas tellement une crise de moralité, parce qu'en réalité, on voit bien 95%, 98% des responsables politiques sont parfaitement intègres et tous les mécanismes de contrôle étant ce qu'ils sont, il n'y a pas tellement de place pour la fraude. En revanche, la crise de la démocratie, c'est une crise d'inefficacité. Qu'est-ce qui fait que d'année en année, les partis démocratiques au gouvernement n'arrivent pas à résoudre des problèmes de sécurité, à résoudre des problèmes de chômage, à résoudre les problèmes de crise tels qu'ils apparaissent ici ou là, autrement que par des législations qui, bien souvent, ne répondent pas aux problèmes posés parce qu'ils sont faits dans l'urgence. Cette question-là, elle mérite en fait une vraie réflexion avant que les dictateurs ne prennent le pouvoir et n'aient de compte à rendre à personne. C'est ça notre sujet. Eh bien, sur cette question d'exemplarité, je voudrais terminer par là. Nous avons un énorme chantier à ouvrir. Comment s'assurer qu'on ait une véritable obligation de résultat quand on prend des engagements vis-à-vis des Français, plutôt que de leur raconter n'importe quoi avant pour ensuite se faire élire. C'est pour ça que j'ai mis les pieds dans le plat il y a quelques jours en posant la question de ce blocage dans lequel on se trouve aujourd'hui et en disant, même si ça n'a pas plu à l'Élysée, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça jusqu'en 2027 parce que le pays était paralysé et que c'est la démocratie qui était en risque. Parce que de mon point de vue, le 5e République, ça fonctionne avec un président, une assemblée qui a une majorité absolue et qui met en œuvre un programme sur lequel il a été élu. Là, avec cette fichue dissolution, l'Assemblée est totalement paralysée. Le gouvernement risque d'avoir le plus grand mal à faire passer des lois, parce qu'il n'aura jamais la majorité pour ça. On le voit sur le budget, mais on le verra demain s'il arrive à tenir sur les questions de sécurité, sur les questions d'emploi. À chaque fois, il y aura une majorité contre, entre les mélenchonistes et les lepénistes. Ils vont tout bloquer, puisque c'est leur ADN de tout bloquer. Et donc, face à ça, bien sûr qu'il n'y a pas d'autre solution, pas maintenant, mais quand les délais de dissolution seront rouverts, d'une nouvelle élection présidentielle qui remette les calendriers dans le bon sens. Oui, bien sûr, ça n'a pas plu à l'Élysée. Forcément que ça n'a pas plu à l'Élysée. Mais une fois qu'on a dit ça, le sujet, il est là. Et quand Sophie et moi, on a parlé assez souvent de ces questions, parce que ça fait des années qu'on dialogue là-dessus, parce que dans le cadre d'éthique, il y a beaucoup de réflexions qui sont lancées sur, par exemple, la question de l'exemplarité entre la politique et l'entreprise, l'efficacité entre la politique et l'entreprise. Je crois que ces sujets, ils sont sur la table. Ils doivent être posés calmement, mais fermement. Parce que sinon, il y a un moment où il sera trop tard. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de pouvoir partager ces quelques réflexions avec vous. Il y en aura d'autres, certainement. Mais je voudrais dire que sur ces sujets, il faudra que les citoyens quand même se lèvent pour s'engager et poser cette question-là à leurs dirigeants. Peut-être on aura alors une petite chance de sauver la démocratie. Bon colloque en tout cas et à très bientôt.
Seconde table ronde.